Les détails, le détail, c'est le monde, enfin.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Tout de suite, une ode au détail avec nos deux invités, Yannick Enel et Vincent Almendros. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit ? Avec Pascal Claude.
Mais enfin, Pascal, c'est juste un détail. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes ? Vous la connaissez sans doute, cette petite musique qui indique comme une évidence que les détails sont des grains de sable qui nuiraient au bon fonctionnement du rouleau compresseur de ce monde à très haute cadence. Les détails qui nous empêcheraient d'être à l'heure, à la hauteur, d'aller plus vite vers la vitesse. Oui, la vitesse qui semble être devenue notre ultime adresse, adresse sans géographie, sans corps, qui paraît s'en foutre des différentes temporalités, singularités de la vie. Et vous connaissez certainement cette chanson France Gall.
C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.
Ce matin, je reprends ces paroles de Michel Berger en osant affirmer, c'est précisément parce que c'est un détail que ça compte beaucoup. Oui, vous, moi et le monde qui nous entoure, nous ne sommes que ça, des montagnes de détails. Vous en enlevez un et patatras, déjà ça n'est plus vous, ça n'est plus lui, ça n'est plus elle. Pensez à cette micro-fossette qui creuse sa joue droite ou à son rire saccadé. Sacré détail, détail sacré. Les détails qui s'assemblent, nous ressemblent. Les détails qui sont aussi le cœur vibrant de la matière artistique. Ce point-virgule placé là et nulle part ailleurs. La lumière qui inonde ce plan dans ce film ou encore ce trait de pinceau, oui, celui qui mène vers le beau. Sérieusement, vous n'allez quand même pas me rétorquer que ça n'est qu'un détail.
Dans quel monde on vit ?
Et nos invités, ce sont des assoiffés de détails. Je vous les présente. Yannick Enel, vous êtes né en 1967, vous êtes écrivain, vous êtes aussi chroniqueur à Charlie Hebdo et vous consacrez votre dernier texte au peintre Francis Bacon. Vous avez passé une nuit au milieu de ses œuvres au centre Pompidou à Paris en 2019. Vous la racontez cette nuit dans Bleu Bacon, livre d'une immense intensité. Vincent Almendros, vous êtes né à Avignon en 1978. Vous êtes vous aussi écrivain, une tension folle alimentée par une tonne de détails le week-end au climat pesant d'un ado chez ses grands-parents et les lectrices et lecteurs qui suivent le très particulier jeu de pistes que vous leur proposez. C'est dans le formidable et élégant Sous la menace, votre nouveau roman. Les détails donc pour commencer. Les détails, c'est pas un détail, Yannick Enel ?
Les détails, le détail, c'est le monde. Enfin, il paraît que le diable vit dans les détails ou selon d'autres traductions,
s'y cache.
Dieu. Voilà, s'y cache ou ce serait Dieu peut-être. Mais Dieu et le diable, en tous les cas chez Bacon, c'est à peu près la même chose.
Ouais, vous allez jusqu'à écrire dans votre nouveau livre « Le monde n'existe qu'à travers ces détails ».
Mais je crois que quand on aime, quand on écrit, quand on regarde, on s'abreuve d'étincelles sensuelles, enfin. Et il ne s'agit que de ça, au fond. L'existence même est une mosaïque. Enfin, chaque journée est une mosaïque de détails qui s'emboîtent. J'appelle ça peindre, moi.
Les détails, et j'ajouterais même le minuscule rythme vos livres, Vincent Almendros. Pourquoi est-ce que vous vous y intéressez tant ?
Oh, c'est un peu malgré moi, je crois. En fait, c'est à force de travailler le texte, forcément, on est attentif à tout et au moindre mot, et donc. À ce que vous appelez le détail, mais qu'il faudrait peut-être définir. Enfin, c'est compliqué. Et puis, je trouve que dans la vie aussi, on est en veille de petites choses, de petits détails qui prennent beaucoup d'importance et qui rythment nos sensations, peut-être.
Vincent Almendros et Yannick Enel, vous êtes nos invités cette semaine. Salut Juliette.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Juliette Goudot, vous êtes journaliste et écrivaine et vous voici avec une nouvelle lettre. Elle est pour qui, celle-ci ?
J'écris cette semaine au monstre sacré.
En toutes lettres, c'est dans une courte demi-heure. Et tout de suite, nous apprenons à mieux cerner nos invités grâce à leur selfie sonore, un son en guise d'autoportrait. Yannick Enel, vous avez choisi ceci. C'est la musique du film India Song de Marguerite Duras, une composition de Carlos D'Alessio. Vous vouliez écouter la version interprétée au piano. En quoi est-ce que cette musique vous raconte, Yannick Enel ?
Oh là là, je ne sais pas si elle me raconte, ou peut-être une mélancolie bien cachée, mais j'aime l'écouter. et j'aime écouter de manière plus générale ce genre de musique au piano, beaucoup de Bach par Glenn Gould aussi, la nuit. J'ai retrouvé à nouveau la joie d'écrire la nuit. Avant, peut-être j'étais fatigué, mais maintenant que j'approche de la soixantaine, j'ai une nouvelle jeunesse, je fais des nuits blanches d'écriture. Et c'est ça que j'écoute la nuit, voilà. C'est une musique de 3h du matin, mais
qu'on écoute à 10h du matin.
Voilà.
Vous êtes un brin mélancolique ?
Bah ouais. Ouais. Mais la mélancolie, au fond, je n'y vois pas une intensité qui verserait vers le lugubre ou la tristesse. J'y vois un rassemblement de forces méditantes. Je trouve qu'enfin, un peu dans les moments de mélancolie qu'on nous laisse. Notre cerveau n'est plus disponible, comme on le disait, à des divertissements fallacieux, mais ça commence à penser, un peu à méditer. Voilà, ce sont de bien grands mots, mais la mélancolie est musicale pour moi. Voilà.
Et votre selfie sonore, Vincent Almendros, il sonne comme ceci.
Une fois que ça part, là, on ne peut plus s'en tirer, je te jure.
Ça déçoit. Allô?
Hop, là. Je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Ça va?
Oui, toi.
C'est beau, t'as grandi?
Merci.
Hop.
Maman?
Ouais.
Elle est où, ma Switch?
Elle est sur le piano, mon cœur, je crois.
Ah oui. Titi?
Quoi? Ça va?
C'est un extrait du film Falcon Lake de Charlotte Lebon, film sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Et ça n'est pas sans lien avec votre nouveau livre, mais en quoi est-ce que ça nous dit quelque chose à propos de vous, Vincent Almendros ?
Bon, en fait, vous m'avez demandé un selfie sonore et j'ai vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la demande, c'est comme si j'avais pris une photo instantanément. Voilà. Et je venais de regarder ce film de Charlotte Lebon, Falcon Lake, que j'ai trouvé extrêmement émouvant, très juste aussi. Alors évidemment, il y avait une thématique commune avec le roman que tu publies. Et puis pour tout vous dire aussi, c'est qu'en ce moment je suis en pleine préparation de mon premier film, un court-métrage. Et donc le cinéma aussi me définit, comme vous dites.
Et bien voilà pour vos selfies sonores. Et nous poursuivons avec quelques échos de l'info. La neige est venue saturer une grande partie de l'espace médiatique cette semaine et il a fallu ralentir.
Des pneus qui patinent, des voitures et des camions à l'arrêt et des fils sur l'autoroute qui se rallongent. La neige annoncée est bien tombée et les automobilistes en subissent les conséquences.
Ralentir donc, contempler et aussi à coups de boule de neige, se divertir.
Je suis venu faire manger de la neige à mes copains pour les rafraîchir pendant les examens. Moi je trouve ça trop chouette, ça nous permet de nous rafraîchir les neurones.
Sympa, quelques centimètres de neige chez nous et au moins 80 là-bas.
On est dans un lieu qui est quand même très isolé. Moi par exemple pour venir j'ai mis un peu plus de 5 heures de train depuis Genève.
Nous sommes à Davos où s'est tenu cette semaine le Forum économique mondial. Le Premier ministre belge était sur place.
La situation dans le monde elle est quand même très instable et donc c'est un moment où on peut... dans un espace d'une journée et demie, avoir énormément de contacts d'une manière très efficace.
Et notez que 250 fortunés y ont réclamé plus d'impôts pour les ultra-riches. L'ultra-riche américain à la mèche jaune-orangée veut retourner à la Maison Blanche. Lundi, Donald Trump a effectué un premier pas en ce sens.
Iowa, thank you.
Merci l'Iowa, merci.
The big night is going to be in November.
Le grand soir aura lieu en novembre lorsqu'on reprendra notre pays et que nous lui redonnerons vraiment sa grandeur.
Thank you very much, everybody.
Merci beaucoup à tous, c'est un grand honneur, merci.
Des pages qui resteront blanches en Belgique. On lit, c'est fini. La petite maison d'édition annonce qu'elle est contrainte de mettre un terme à la publication de nouveaux romans. Et pourtant...
Les écrivains permettent aussi de penser le monde. Raconter des histoires, en fait, c'est rendre possible la pensée.
Pierre de Melenard, le directeur d'Onlis, qui nous amène à votre temps fort de l'actualité. Qu'avez-vous décidé d'extraire du flux de l'actu ? Vincent Almendros d'abord.
Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est peut-être le fait qu'on commence à aborder une réflexion autour, un peu plus poussée en tout cas, autour des écrans. En fait, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement nécessaire. Il y a quelques semaines, j'entendais Vincent Lindon dire que c'était le cancer de notre société, et je le crois vraiment profondément. Tout le monde, quel que soit l'âge, a une consommation d'écran qui m'effraie quand on sait l'importance que ça a, même sur les élections. On l'a vu avec Trump ou Bolsonaro au Brésil. Et c'est quelque chose qui m'effraie. Je ne sais pas si ce n'est pas trop tard, en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion collective à mener.
On est au moins deux à être effrayés, Vincent Almendros. Yannick Hennel.
Oui, moi, c'est quelque chose qui, à la fois, relève de l'actualité et qui perdure. C'est la solitude des professeurs dans les collèges, dans les lycées, et pas qu'en France. Il y a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui vient d'arriver. Elle a immédiatement, comme un symptôme, elle a immédiatement dit qu'elle avait enlevé ses enfants à une époque de l'éducation publique parce qu'il n'y avait pas de professeurs, ou que les professeurs n'étaient pas là, ou qu'ils étaient absents. Et il se trouve que quand on regarde très concrètement les taux d'absentéisme dans toutes les catégories sociales en France, on voit très bien que chez les professeurs, c'est pas du tout ce qui les définit. Il y a beaucoup plus d'absentéisme dans les entreprises, dans la haute fonction publique, etc. Donc il y a un abandon comme ça qui s'organise autour des professeurs qui sont lâchés par tout le monde. Et je pense que l'arrivée inéluctable, terrible, infamante de l'extrême droite en France va s'articuler à ça, justement, à cet abandon organisé des professeurs depuis 30 ans. Voilà, moi je l'ai été longtemps. Et c'est une chose, à mon avis, fondamentale, cruciale, qui est traitée de manière assez débile par les divers gouvernements, au moins en France.
Voilà qui est clairement dit. Juliette.
Oui, mais moi aussi j'avais envie de réagir au nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron en France, même si, pardon, c'est très français. J'hésitais entre relever son vocabulaire nataliste qui parle du réarmement de nos utérus, finalement, en tant que femme. C'est vrai que c'est quand même assez régressif. Et puis, il y avait bien sûr cette affaire qui concerne la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oueda-Castéra, qui, comme le dit Yannick Hennel, je suis tout à fait d'accord, est le symptôme d'un abandon désormais affiché finalement de l'école publique à laquelle on doit tout, à laquelle personnellement moi je dois tout. Et je voulais saluer les professeurs, les remercier, leur dire que nous on croit en eux et qu'on espère que en tout cas quelque chose pourra se passer pour que cet abandon cesse et en tout cas que l'école publique ne soit pas jetée comme ça par ceux-là même qui devraient la servir et la défendre en fait.
Voilà pour vos temps forts de l'actualité. Et nous allons nous frotter à l'œuvre de Bacon avec vous, Yannick Hennel.
Est-ce que l'alcool joue un rôle dans votre travail ?
Je suis presque alcoolique. My work is a reflection of my life. Je peux rien faire pour les autres. Je peux faire seulement des choses pour moi-même. De temps en temps, les autres sont un peu intéressés dans ce que je fais.
Et qu'est-ce que les autres peuvent faire pour vous ? Quand je dis les autres, je pense, disons, aux grandes idées.
Restez beau.
Francis Bacon, un verre à la main et titubant dans cet entretien de 1964 accordé à la RTS, la radio-télévision suisse francophone. Yannick Hennel, Bleu Bacon, c'est le titre de votre nouveau texte, le récit de votre nuit mouvementée à l'expo Bacon en toutes lettres. C'était en 2019 au Centre Pompidou à Paris. Je ne peux rien faire pour les autres, disait à l'instant Bacon. Néanmoins, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, Yannick Hennel ?
Quand il dit ça, elle est d'une grande élégance. J'adore sa voix, j'adore sa manière si touchante d'être attentif. Enfin, il dit d'ailleurs, j'avais oublié, il dit presque alcoolique. Tout est dans le presque. ce qu'il fait pour moi, c'est qu'il me procure une ivresse. Mais c'est une ivresse de couleur, c'est une ivresse de forme.
De bleu.
Alors de bleu, parce que j'ai identifié ça durant cette nuit, ce bleu dont on parle assez peu concernant Bacon. Il y a une espèce de doxa, c'est-à-dire il serait le peintre nihiliste de la violence, du sadisme, de la cruauté. Les corps sont certes déformés, mais il y a quand même autre chose. Enfin, c'est un peintre qui dénude la violence du monde. Il n'est pas là pour l'encourager. Enfin, il disait tout le temps, d'ailleurs, il suffit d'allumer la télévision ou le journal, et puis en 20 minutes, on voit bien pire. Enfin, mais Il nous transmet tout simplement des comprimés de vie, enfin une effervescence. Je crois que c'est un peintre dont la peinture peut nous soulever. Alors c'est une peinture qu'on peut ne pas aimer. Enfin, je suis pas sûr d'aimer tous les tableaux de Bacon. Mmh. Ça suscite une forme d'effroi. Enfin, mais cette épouvante est aussi nous réveille. Voilà, nous tranche dans la mer gelée, comme disait Kafka. Mmh. Enfin, on est sommé au fond d'être en vie face au tableau de Bacon.
Pour vous, Bacon était un héros, et cela pour une raison très précise. Je vous cite, « Il ne cédait jamais sur son désir ». Pourquoi est-ce que c'est une attitude héroïque, selon vous, Yannick Enel ?
Bah, l'héroïsme, c'est souvent ridicule. Enfin, c'est-à-dire que produire des exploits, franchement... Bon,
à quoi bon
la question de la réussite, c'est toujours un peu falsifié. Mais là, c'est une définition du héros par Lacan, figurez-vous. Le héros, c'est celui qui ne cède pas sur son désir. Mais c'est quelque chose qui est à notre portée. Enfin, ne pas céder sur notre désir, c'est une petite politique intime. Enfin, voilà, ne pas renoncer.
C'est la vôtre
Je me la récite. C'est ma prière du matin, oui. Mais je suis pas sûr d'être à la hauteur de ça. Mais ne pas céder sur son désir, c'est croire en son idée fixe. Voilà, s'imaginer, se faire un cinéma autour de l'idée qu'il y a quelque chose qu'on défendra, quelque chose qui est irréductible en nous. Je parlais tout à l'heure de la solitude des professeurs. Ça peut être aussi l'affirmation poétique de l'existence. Voilà. Ça a l'air nébuleux comme ça, mais c'est une grande chose, enfin. Et pour moi, aller voir de la peinture, ça participe de ça. Vincent Almendros parlait des écrans. Je pense qu'on est en train d'être fossilisé, notre regard est frigidifié, et peu à peu, qu'on le veuille ou non, hein, à tous les âges, effectivement. Et moi, j'aime bien aller voir de la peinture, parce que la peinture, c'est pas de l'image. C'est tout le contraire de l'image. C'est une parole muette. Et c'est une parole qu'on peut écouter. Et il se trouve que c'est une parole en couleur, en forme. Et voir de la peinture, ça, c'est pas seulement que j'aime ça, ni que c'est beau. C'est que ça m'apprend sans cesse, ça me réinitie au fait que notre regard reste en vie. Voilà. On
apprend à voir en regardant des œuvres. Vous écrivez page 49, la peinture ne cesse de se dresser contre la menace d'un engloutissement du visible. Si le monde n'est pas peint, on n'y verra bientôt plus rien, et peut-être même n'y aura-t-il plus de monde. Les peintres nous aident à y voir plus clair dans ce monde chahuté, Yannick Enel ?
Ah bah oui, ça me semble... Enfin, pour moi, c'est une évidence, oui. Je crois que là, il en va de même avec la littérature, c'est-à-dire avec un langage qui est réfléchi, qui est médité, qui est nuancé, qui est détaillé. Si on ne pense pas, si on n'écrit pas, si on n'ajuste pas son regard à ce qu'on aime... alors on sera tous sous emprise. Enfin, le monde ne cesse de s'organiser, je ne sais pas par qui, on s'en fout, enfin, mais le monde ne cesse de s'organiser pour nous amoindrir. Voilà, c'est comme ça, des intérêts sont en jeu. Et ne pas céder sur son désir, comme le font les grands artistes et les grandes artistes, c'est la moindre des choses. Ce sont des gestes, voilà, d'aller, comment dire, cultiver sa solitude, transmettre, aller voir de la peinture, aller écrire, parfois pour rien, gratuitement. Et voilà, dans la grande violence féerique, enchantée de Bacon, j'ai reconnu ça, enfin, durant cette nuit, j'ai été comblé à tout point de vue. Oui.
Sans peinture, pas de monde.
Ben, c'est-à-dire un monde, évidemment, mais lequel ? Le monde d'Elon Musk, vous voulez dire ? Celui où on aura entièrement dévitalisé nous fait respirer créativement. C'est un monde qui serait entièrement déterminé par la technique. Effectivement, moi je ne l'appelle pas un monde, c'est un non-monde, c'est un anti-monde. Ce n'est pas une position réactionnaire que j'ai là, ou peut-être, alors je suis plus réactionnaire que je ne le pensais, mais que je ne le croyais. Mais c'est plutôt que, pour moi, ce qui orchestre musicalement l'idée que nous nous faisons tous les jours, tous les matins, en nous réveillant du monde, ce sont les artistes qui le font, ça, pas les politiciens, pas les idéologues. Donc voilà, je pense que s'il y a quelque chose à défendre, ça se fait intimement, dans la solitude, sans proclamation. C'est notre amour, tout simplement. Notre amour pour l'art, pour l'écriture, notre amour pour l'amour.
Les humains décrochent les uns après les autres. Ils s'accommodent de l'appauvrissement organisé du langage. Ils se laissent asservir dans leur vie quotidienne centimètre après centimètre. Ils étouffent dans l'absence d'esprit qui sévit comme un nouvel ordre mondial et bientôt empochera la planète entière. D'une manière qui peut sembler dérisoire, mais qui engage pourtant le moindre de nos actes sur Terre, chaque phrase écrite, chaque tableau peint résiste à l'emprise d'une telle abstraction. Rien n'est insignifiant, surtout pas le langage, encore moins les formes artistiques qui luttent contre l'envoûtement organisé. Qu'entendez-vous précisément, Yannick Haenel, par appauvrissement organisé du langage ?
C'est fou, je viens de me rendre compte grâce à vous que j'ai écrit un traité politique en fait. Je pensais avoir écrit le récit de ma nuit à Beaubourg.
Et c'est un extrait qui m'a fort marqué, fort interpellé.
Ah oui, non, bien sûr, mais ça engage au fond l'amour qu'on peut avoir pour la peinture, que j'ai pour Bacon, engage toute une conception de l'être, au fond, de ce qu'on attend de la vie. L'appauvrissement organisé du langage, c'est sur ça que vous me questionnez. Oui. C'est pas seulement, j'ai pas envie de chercher des causes à ça, et c'est pas seulement, je sais pas quoi, la réduction de tout énoncé à des slogans, à la publicité. C'est une des formes sans doute du capitalisme, mais si on ne fait pas attention, si soi-même on n'est pas tendu vers son propre désir, son exigence, enfin de d'élargir sans cesse le langage en nous, c'est ça qui arrive, c'est-à-dire Ça s'organise sans nous et l'organisation.
Et c'est grave.
Moi je crois que c'est ça l'essentiel. Vous savez, je parlais tout à l'heure en riant d'Elon Musk, mais en fait ça me fait pas du tout rire. Il a déclaré il y a quelques années que bientôt on n'aurait plus besoin du langage. Quand un homme comme ça fait une petite prophétie un peu à la con, si je puis me permettre, en vérité c'est un ordre qu'il donne. C'est-à-dire que le langage binaire dont a besoin la technologie, la cybernétique, c'est un vœu de sa part qu'il devienne l'unique langage. Donc pour moi, effectivement, quelque chose ne cesse de nous astreindre et de réduire le langage en nous si on ne fait pas attention. Voilà.
Et l'envoûtement organisé ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le désenvoûtement. Je pense que le geste d'un peintre, comme Francis Bacon, le geste d'une écrivaine comme Marguerite Duras, d'un écrivain comme mon voisin de studio, Vincent Almendros, ça consiste à désensorceler sans cesse le monde, à désenvoûter ce qui est en train de nous réduire et de nous plaquer au sol. Il s'agit d'être en vie, de reprendre vie.
Je vous cite encore Yannick Haenel. Même si le fond de l'existence est noir, toujours dans notre vie miroite quelque part une fontaine. Il faut du temps pour la rejoindre et parfois toute une vie, mais il arrive qu'elle se donne à travers une fulgurance qui nous sourit. Je crois en cette fontaine, je l'ai dit, j'ai confiance, je parie sur la chance. Lorsque j'écris 3 ou 4 heures d'affilée, j'entends un clapotis heureux au fond des phrases. C'est elle, la fontaine et le secret de l'écriture. Je me suis posé cette question en vous lisant. Moi, je n'écris pas, mais alors je me demande comment on fait pour la rejoindre si on n'écrit pas cette fontaine dont vous parlez, Yannick Haenel.
Cette humidité fondamentale des choses, on peut la repérer, il n'y a pas besoin d'écrire. Enfin, j'ai tendance à la voir dans le langage. J'aime que le langage se dispose à se rend disponible, disons, à l'écoute de cette eau, de ce lac, de cette flaque, je ne sais pas comment dire, de cet océan. Mais
la langue est humide.
Mais oui, je crois. C'est ce qui se passe dans l'amour, au fond. C'est ce qui se passe dans la peinture.
La langue, c'est l'amour. L'amour, c'est la langue.
Ouais, j'en suis arrivé à un point où les deux, pour moi, les deux coïncident. L'amour, ça ne va pas sans dire. Et l'élément même des phrases que j'essaye d'écrire rejoint un point, alors j'appelle ça une fontaine, parce que c'est ce qui comble et désaltère, mais c'est l'autre nom de l'amour, voilà.
Pourquoi avez-vous confiance? Pourquoi pariez-vous sur la chance?
Ben, c'est difficile d'expliquer sa propre confiance. Enfin, déjà que c'est un sentiment
mais
assez
précaire. Mais c'est un cadeau,
fragile.
Ça vous a été offert?
Non, mais peut-être que je suis foncièrement pas du tout nihiliste. C'est-à-dire que bon, on peut jamais se prévaloir de ne pas l'être du tout. Mais je sens qu'il est possible à chaque instant de se rassembler tout entier pour voir, pour écouter, pour aimer.
Yannick Enel, le temps d'une micro-parenthèse au cœur du livre, vous confiez que vous ne supportez plus le mot « homme ». Pourquoi ?
Oui, j'aime pas trop quand, par exemple, les philosophes disent « l'homme fait ceci ou cela », enfin, comme si les humains ou les personnes humaines pouvaient être réduites à ce genre « homme ». Bon, il y a ça déjà, je trouve ça agaçant en fait. Pourquoi homme plutôt que femme? Mais la deuxième chose, c'est que ben, on croit qu'on s'imagine, en général dans les discours politiques, où on se gargarise du mot homme, les hommes, l'humanité, on s'imagine que ça aura le dernier mot. Je pense souvent que celles et ceux qui utilisent ce mot comme ça, avec une majuscule, l'homme, masque une forme d'impuissance derrière ce mot très vague. Voilà, donc,
J'ai encore deux questions brièvement à vous poser. Pourquoi aviez-vous emporté avec vous une flasque qui contenait du vin blanc?
Vous voyez, j'ai peut-être moins confiance en moi que vous ne le disiez ou que j'ai pu le dire il y a quelques minutes. Je me suis dit, si ça se passe mal, parce que c'était une expédition quand même, c'est pas très tranquille d'avoir choisi, c'est moi qui ai choisi, mais enfin, c'est pas très tranquille d'aller passer une nuit avec 42 tableaux de Bacon, même si c'est une chance. Je me suis dit, si ça se passe mal, si je me sens mal, au moins je pourrais toujours me saouler. Et c'est la sonnette d'alarme pour moi, c'est l'alcool, voilà. Mais il se trouve que vous allez peut-être pas me croire, mais j'en ai pas eu besoin. Il y a eu un moment vers la fin où je me suis porté à moi-même un petit toast, vous savez, dans la grande et belle solitude éclairée de la nuit blanche. Je sentais que ça y est, c'était fait. Il était, je sais pas quoi, 5h du matin. J'ai ouvert ça, je me suis pris un verre, voilà, j'ai bu directement au goulot, je sais pas si on dit ça pour une flasque.
Pas non plus.
Et puis je me suis mis de manière un peu folle et enjouée à danser tout seul avec la musique de David Bowie face au tableau de Bacon, et parce que j'avais demandé à ce qu'on éteigne la lumière. J'aime par-dessus tout les grottes, j'aime Lascaux, j'aime Chauvet, et je me disais, j'avais pris une lampe torche, et je me disais, tiens, je vais voir la peinture dans la nuit avec une lampe torche, elle va sortir des murs. Bon, ça a été une étrange féerie, et que j'ai donc saluée avec un peu de vin blanc.
Dernière question, j'attends tout de la peinture, comme j'attends tout de la littérature et de l'amour, c'est ce que vous écrivez. Attendre tout, c'est attendre quoi précisément, Yannick Enel?
Ah ben écoutez, ça c'est... Vous avez l'art des questions qui nous acculent. Quand je le dis souvent que j'attends tout de ce que j'aime... C'est précisément parce que je ne sais pas exactement ce que j'attends, mais je veux dire par là que je me rends disponible, ou j'essaye, ou du moins je crois que je me rends disponible intégralement. Je suis prêt à tout, c'est ça que ça veut dire. Je suis prêt à tout pour ça. J'attends tout au sens, peut-être les grands croyants appellent ça la foi.
La peinture se transmet directement à vos sens, elle vous offre un surcroît d'existence. C'est dans votre intense bleu Bacon, Yannick Enel. J'ai adoré, vous restez avec nous.
La première.
Dans quel monde on vit? Pascal Claude.
J'espère qu'il est joyeux votre week-end. Nous avons la chance d'être aux côtés des écrivains Yannick Enel et Vincent Almendros cette semaine. Et Juliette Goudeau est aussi de la partie. Juliette, vous avez une lettre pour nous et nous vous écoutons.
Vous étiez les monstres sacrés. Nous aimions tout de vous, nous vous pardonnions tout. Vos coups de gueule, vos grosses voix, vos rires gras, votre jeu à la fraîche. Nous aimions tout de vous, votre panache, vos grosses mains, vos grands corps, votre manière de faire, de dire, vos yeux, votre bouche, trop grande et qui emporte les mots, ceux de Cyrano, de Danton, de Rodin. Vous étiez le cinéma, vous sembliez avec d'autres le porter littéralement. Comme les acteurs dans les péplums, comme John Wayne dans Monument Valley, et parfois même plus grand que Monument Valley dans nos têtes d'enfants aspirées par l'écran. Et puis un jour, on ne sait pas comment, l'imaginaire s'est fracturé. L'écran s'est fissuré. On s'est mis à voir des choses qu'on ne voyait pas. Une actrice, dans ce qui est supposé être une scène d'amour, qui replace vos mains. Qui replace votre rire, qui ne voit plus rien, et sûrement pas elle, qui cherche à fuir, le regard éperdu, écrasé sous vous. En peinture, on a commencé à voir d'autres blessés derrière Guernica. Des femmes par vous blessées, rendues folles. En France, dans le monde intellectuel, certains riaient quand un grand maître, cette variation professorale du monstre sacré au cinéma, un grand philosophe donc, tuait sa femme à main nue, l'étranglait dans son appartement de fonction de l'école normale supérieure. Elle, on veut dire son nom, Hélène Rittmann, sociologue et résistante, assassinée rue d'Ulm à Paris en 1980. Aujourd'hui, une salle de l'école porte son nom, mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait encore laver ce nom de cette nuit impénétrable où le philosophe revendique alors, je cite, un coup de folie qu'il exempte de son crime. La vedette était devenue le coupable dans une époque qui se refuse à nommer ce qui est féminicide. Certaines se sont mises à vous appeler ogre, caïman, mandarin, minotaure. On a alors compris que dans Monstre Sacré, c'est le monstre qui fait loi. Il l'a fait toujours. Sur bien des plateaux de cinéma, il l'a fait toujours. Et pour ça, il ne faut pas seulement du silence. Il faut de la complaisance, de la peur, du désir, du dégoût, de l'humiliation, de la nausée, du pouvoir. Il faut une société tout entière bâtie sur cette envie-là de prendre, de posséder. Nous avons compris alors qu'en vous nommant tel monstre sacré, nous avions laissé faire quelque chose de dangereux. Nous vous avions mis hors la loi en vous sacralisant. Nous avons laissé croire que vous étiez intouchable, mais nul n'est au-dessus de la mêlée. Et puis, on vous a vu chuter, et dans votre chute, vous criez à l'effacement. Pourtant, il y a des mots simples que vous pourriez dire, mais que vous ne dites pas. Pardon. Vous chutez encore, et il nous faut regarder l'écran autrement. Il nous faut regarder malgré vous. Car accepter de regarder votre part monstrueuse, encouragée par nous tous, qui vous regardions alors éblouis, ne veut pas dire qu'on veut effacer vos films, ni vos toiles, ni vos livres, mais qu'on va les regarder autrement, en prenant une agression pour ce qu'elle est. On ne sait pas si on aime encore vos films, vos toiles, vos livres. On pense qu'on les aimera encore, mais comme entachés de cet amour. Et votre nom soudain, qui sonnait jadis plus fort que tout, et même plus fort que celui de Dieu, tonne déjà moins fort. Et déjà on rêve autrement, on désire autrement, et peut-être même qu'on aime autrement. Alors adieu, monstre sacré. Juliette.
Merci Juliette Goudot et bravo pour ce texte. Et vous voyez, Yannick Hennel, on en revient quelque part à la question du regard.
Ben là, c'est plus que le regard. Enfin, oui, bien sûr, c'est l'éthique. Ça engage la manière dont on vit. J'ai bien aimé, dans ce très beau texte, le fait que le mot pardon est absent. Voilà. Demander pardon, pardonner. Je ne sais pas, j'ai l'air d'un vieux chrétien en disant ça, mais ça déborde les questions religieuses. Ouais.
Vincent Almendros, vous êtes dit quoi, vous, en écoutant Juliette ?
J'étais assez sensible au basculement peut-être du sens du mot monstre vers le mot ogre. Je trouvais ça très juste.
Juliette, votre lettre, elle est déjà disponible à la réécoute sur Ovio et vos applis de podcast. Le texte est également disponible sur le site lapremière.be. Et nous allons vers l'adolescence maintenant. Avec vous, Vincent Almendros.
Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado.
D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache.
On a des poils sous les bras, sur le pubis aussi.
Et puis là, sur les jambes.
Ensuite, faut avoir plein de boutons d'acné sur la figure.
On a la voix qui mue.
La voix qui se transforme. Mais oui, tu sais bien, c'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille.
Comment tu me trouves ?
Les boutons qui gravelaient mon front et mes joues formaient par endroits de petites vésicules rosâtres aux extrémités laiteuses qui donnaient à mon visage l'aspect d'un fruit exotique. Des poils sombres et duveteux avaient poussé au-dessus de ma lèvre supérieure, dessinant à grands traits les prémices d'une moustache. Même mes cheveux avaient changé de texture. Ils s'étaient épaissis et ondoyaient à présent en un lainage terne impossible à coiffer. Je ne me reconnaissais plus. C'était à cause de cette métamorphose que j'avais essuyé les premières moqueries au début de l'année. « La bête !» avait dit un matin un de mes camarades en me voyant arriver dans la cour. Je me défiais alors une dernière fois du regard dans le miroir en songeant que mes camarades avaient raison. J'étais en train de devenir un monstre. Cet extrait de « Sous la menace », votre quatrième roman, Vincent Almendros, le récit d'un week-end pesant dans la vie d'un enfant qui se découvre adolescent. Il est chez ses grands-parents, avec sa mère et sa cousine Chloé. Qu'est-ce qui vous a amené à aller voir du côté de cette période de la vie, de l'âge ingrat, comme on dit, Vincent Almendros ?
En fait, je crois que j'ai toujours été intéressé par la question du corps, et de ces transformations, de ces métamorphoses, ces vieillissements. Et puis, bon, pour être honnête, je voulais au début écrire un livre à la troisième personne qui se passait sur un temps long. Puis j'ai fini par écrire un livre à la première personne qui dans un huis clos. Mmh. Et cette première personne, bah, j'ai dû l'investir comme à chaque fois et me replacer un petit peu dans cette période compliquée qui est l'adolescence. Et
ça a été une période compliquée pour vous? Vous avez été quel type d'adolescent, Vincent Almendros?
Moi, je sais pas. Enfin, j'ai assez peu de souvenirs de mon enfance, pour tout vous dire. C'est un peu étrange, mais en tout cas, j'ai des souvenirs, oui, d'une difficulté à se découvrir, quoi. Mmh. À la fois à faire avec ce qu'on devient, et puis des pensées nouvelles, et des même dans les interactions avec les autres. Peut-être aussi commencer à sentir chez moi une sorte peut-être d'hypersensibilité sur laquelle je ne posais évidemment pas de mots, quoi. C'est peut-être ça, en fait. Pour vous répondre plus simplement, c'est le souvenir d'une période où les mots n'étaient pas là, quoi. Enfin, où il n'y avait pas la possibilité de nommer, je crois, les choses. Et c'est en ça que c'était difficile, je pense.
Et à ce moment-là, l'écriture n'était pas encore dans votre champ de vision ?
J'ai commencé assez tôt à écrire. Les premiers souvenirs datent de quand j'avais 12 ou 13 ans, mais je ne sais pas, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui où c'est devenu plus qu'une activité, un travail et une obsession quotidienne. Mais en tout cas, je vois que je ramène ça à l'écriture, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui me définit presque en tant qu'adulte, c'est cette capacité ou cette tentative en tout cas de nommer les choses.
Quentin, le personnage de votre roman, il a l'impression de devenir un monstre. On est loin de la figure du monstre sacré. Qu'est-ce qu'un monstre, Vincent Almendros ?
Bah, étymologiquement, c'est celui qu'on montre, et c'est ce qui se passe pour Quentin dans son collège, puisqu'il est, on comprend assez vite qu'il est harcelé par certains de ses camarades, mais c'est aussi le monstre qu'il croit être ou qu'il pense être, et en vérité, là, dans cette croyance-là, je crois, de ce personnage, c'est aussi parce qu'il se confronte à des secrets familiaux.
Quentin et sa cousine Chloé effleure le désir dans votre texte. Je me suis demandé comment avez-vous voulu aborder ce sujet dans un monde post-MeToo ?
Oui, c'était assez délicat, en fait, pour tout vous dire. C'est là où je me suis rendu compte, et c'est ça qui m'intéressait, c'est que chaque mot pouvait être porteur de connotations. Et,
de sens divers.
Je crois que j'ai été en fait dans la même position que le personnage de Quentin lui-même, un peu encombré par le langage, vous voyez, cette difficulté à nommer les choses. Mais je trouvais justement que c'était important aussi de questionner finalement quelque chose qui est de l'ordre et du désir, mais aussi de la violence, et la violence des hommes.
Ouais, et de la domination, parce que ce mot-là, vous l'avez choisi à un moment dans votre texte. « J'avais envie de jouir, dit Quentin, quelques secondes encore de ce sentiment de domination. » Vous êtes attentif aux moindres détails. Il vous paraissait important que ce mot « domination » figure dans votre texte ?
Oui, bien sûr. Et pour tout vous dire, je suis très touché que vous ayez été sensible à ça, parce que c'était presque dans les retours que j'ai de lecteurs, c'est pas quelque chose qui ressort, et pourtant c'était quelque chose qui m'animait, qui était assez profond. Enfin, en fait, je sais pas comment le dire, mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se poser la question du désir sans réfléchir à cette question de la domination et de la domination masculine. C'est vrai que cette question du désir, j'avais besoin, je crois, et envie de l'associer, ou en tout cas de questionner la notion de violence aussi.
On va en dire le moins possible à propos de l'intrigue de votre livre, histoire de ne pas gâcher le grand plaisir de lecture que vous nous offrez avec ce texte. Mais je dirais tout de même qu'il est question d'un secret de famille. Et c'est pas la première fois que vous nous confrontez à ces non-dits ou à ces peu-dits familiaux. Vous savez pourquoi les secrets de famille vous intéressent tant ?
Oh, il y a sans doute des raisons très intimes, très personnelles. Bon, en même temps, je crois que beaucoup de personnes sont confrontées à des secrets de famille. J'ai l'impression presque que c'est une sorte de pléonasme. Mais je ne sais pas, ça a dû avoir chez moi une résonance très forte, en tout cas. Et puis, c'est la question du silence. Donc, pour un écrivain, cette question du silence, elle est essentielle. Je pense même qu'elle est parfois à l'origine d'un désir d'écriture. Je crois que c'est aussi parce qu'il y a eu du silence qu'il y a ce désir de
nommer,
chercher les mots, oui, de nommer les choses.
Quentin, il confie ceci à propos de sa mère. « Je ne lui en voulais pas. Au fond, elle croyait bien faire et avait envie que tout se passe bien, mais elle s'y prenait mal. Nous étions pareils. Vous savez pourquoi ils s'y prennent mal ? Pourquoi nous nous y prenons mal bien trop souvent dans nos liens humains, nous les êtres humains, Vincent Almendros ?
Moi, je crois que c'est parce qu'on ne nomme pas, justement. Parce que c'est très difficile de dire les choses, et pourtant, je crois que c'est essentiel. Moi, je sais que dans mes relations humaines, sociales, j'ai vraiment besoin toujours de dire les choses. Et c'est ce que je demande aussi à ceux qui vivent avec moi, c'est d'être le plus clair et le plus juste possible dans leurs paroles. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit d'hésiter. Mais je crois que dire les choses et essayer d'être le plus sincère possible est quelque chose qui est, oui, une sorte d'éthique, je pense, qui est importante.
On dirait que vous observez le monde, Vincent Almendros, à l'aide, je ne sais pas moi, d'une loupe ou d'un microscope. Comment regardez-vous, Vincent Almendros ?
Ah, tout à l'heure, je parlais d'hypersensibilité. Je crois que... Je ne sais pas, c'est compliqué parce que, en vérité, vous voyez, dans nos vies quotidiennes, il ne se passe quand même généralement pas grand-chose. Et pourtant, elles sont remplies de sensations, de sentiments. Et je crois que j'essaie de retrouver ça dans l'écriture. C'est-à-dire cette omniprésence des sensations avec, finalement, un quotidien assez banal. Et je crois que j'ai cette peut-être cette hypersensibilité-là. Et en même temps, j'en sais rien, parce que j'ai l'impression que tout le monde voit les choses comme moi. Mais je... En tout cas, je...
Oui, mais vous allez vers à la fois l'intime et l'infime. C'est quand même rare de trouver dans des textes autant de descriptions d'insectes, par exemple.
Oui, mais alors, vous savez, c'est vrai que bon, dans tous mes livres, il y a pas mal d'animaux.
Ouais.
Parce que les animaux font partie de notre quotidien. Là, c'est vrai que dans le livre, il y a un perroquet, Charles le perroquet, il y a des fourmis volantes. Mais vous voyez, par exemple, les fourmis volantes que j'ai mis dans le texte, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. C'était lors d'une rencontre en extérieur avec des lecteurs, et puis tout à coup, il y a une pluie de fourmis volantes qui nous sont tombées dessus. Bon, ben, voilà, ça fait partie de la vie.
Sous la menace, c'est le titre de votre roman. En ouverture du livre, vous citez un extrait de La Bête humaine de Zola. Non, non, sois tranquille, rien ne te menace. Qu'est-ce qui menace l'écrivain que vous êtes, Vincent Almendros ?
Oh, beaucoup de choses. En fait, étymologiquement, le mot menace vient de, je crois que c'est Minax Minaïs, c'est un rocher en surplomb. Et j'aimais bien cette idée de quelque chose qui pouvait s'effondrer à tout instant, qui pouvait menacer à la fois le lecteur, mais à la fois, moi aussi, dans l'écriture, pouvait menacer, enfin, quelque chose qui pouvait menacer le fait même d'écrire, quoi, cette énonciation un peu particulière, de se mettre dans la peau d'un adolescent. Et je crois que j'aime bien une certaine littérature qui est inquiète de ce qu'elle raconte, pour qui ce n'est pas très évident. Et Là, je rejoins en plus, tout à l'heure, il y avait de très belles phrases
de Yannick
Hennel sur le langage et l'humidité du langage. Moi, je sais que je ne suis pas du tout à l'aise avec le langage oral. C'est quelque chose qui m'encombre, qui est difficile pour moi. J'espère que ça ne s'entend pas trop ce matin. Mais c'est très difficile pour moi de m'exprimer, de parler. On peut... à tout instant, utiliser le mauvais mot. On peut à tout instant...
Vous avez déjà des regrets depuis le début de cet entretien ?
1000, 2000. Non, mais c'est pas des regrets, mais je sais que je vais sortir du studio en me disant « mais j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais dû le dire autrement ». Et ça, c'est terrible dans le langage oral. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est cette mise au silence possible. C'est-à-dire qu'on peut choisir son mot, on peut le réfléchir, on peut le penser... et on peut recommencer sans cesse.
En vous lisant, on sent que la menace à notre époque, elle est notamment climatique. Vous écrivez « La pelouse était d'un vert sec et jaunissant. Le vent était devenu d'une douceur malsaine, presque écœurante. » Est-ce que c'est un hasard si le dérèglement climatique rôde dans votre livre, Vincent Almendros ?
Non, mais vraiment, vous êtes décidément un très bon lecteur, puisque même des choses que je considère comme très discrètes, vous les avez relevées, et c'est très agréable. Non, merci. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez présent dans plusieurs de mes livres, mais un peu à bas bruit, parce que je ne suis pas en train d'écrire un traité ou de m'élever contre ça, mais c'est en tout cas, je crois que j'essaie, en fait, en vous parlant, je me rends compte que je suis tout simplement un écrivain réaliste. Enfin, j'essaie d'être un écrivain réaliste, et donc la question des sensations, comme la question climatique, comme la question de
la domination,
de la domination masculine, m'importe, ou en tout cas je ne peux pas ne pas en tenir compte dans l'écriture.
Sous la menace, c'est d'une précision qui fait jaillir l'attention et les émotions, c'est bluffant et précieux. Bravo et merci Vincent Almendros, vous restez avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Frissonner, histoire de se quitter en beauté, nos invités vous offrent des sons qui font naître la chair de poule. Et nous écoutons d'abord celui de Yannick Hennel.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez, suez belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère, au Mont sans souci.
Au Mont sans souci, c'est Jean-Louis Murat, Yannick Hennel.
Moi, j'en frissonne encore. J'ai envie de pleurer de joie et de sauter de joie dans le studio.
C'est, ne vous privez pas.
À la fois... je vais rester calme. C'est à la fois mélancolique, on parlait de ça tout à l'heure, et en même temps, quelle euphorie. Enfin. La voix de Jean-Louis Murat, ce petit piano de Baltringue et puis les colonies de vacances, enfin, et puis quelque chose derrière comme les montagnes près de Clermont-Ferrand, je sais pas, il y a un roman. Jean-Louis Murat, c'était un grand poète, enfin, sa mort brutale il y a quelques mois je sais que c'est bête à dire, ça m'arrive assez peu avec mes idoles, avec les gens que j'aime sans les connaître. Mais là, ça m'a chagriné. Je crois que Jean-Louis Murat est un des grands poètes troubadours, comme ça, qu'il y a eu au XXe siècle en France et au début du XXIe. Et cette chanson, il y a tout dedans, on peut l'écouter à l'infini.
Il faut réécouter aussi son titre « Sentiment nouveau ». Vous, Vincent Almendros, vous proposez ceci.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles.
Vous vouliez entendre Jean-Louis Trintignant interprétant un poème. C'était un extrait de « Je voudrais pas crever » de Boris Vian. C'est la voix de Jean-Louis Trintignant qui vous touche tant, Vincent Almendros ?
Ah oui, plus il vieillissait, plus sa voix était, je trouve, magnifique. D'une justesse et d'une sensibilité qui était vraiment extrêmement poétique, comme ce qu'il lisait. Et à la fois, en même temps, une sorte de nonchalance ou de facilité qui était... Moi, je suis très, très ému à chaque fois d'entendre Jean-Louis Trintignant, même dans des interviews. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de le voir travailler. Il était en plus d'une gentillesse folle. Et moi, j'étais très triste aussi d'apprendre sa disparition.
Allez, avant de se quitter, nos choix culturels pour ce week-end. Juliette Gudeau d'abord.
Oui, je suis encore tout émue aussi d'avoir entendu Trintignant, merci. Moi, c'est une actualité liée au cinéma. C'est la sortie en salle du film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature, qui raconte une histoire de Frankenstein au féminin, doublée d'une fable féministe vraiment réjouissante, à la fois gore, baroque, flamboyante à l'écran. Et je voulais signaler que, en fait, c'est adapté d'un roman écossais et le livre ressort aussi en librairie qui s'appelle « Pauvre créature » d'un écrivain écossais qui nous a quittés, mais qui s'appelle Alasdair Gray. Et la facture, c'est un faux roman gothique, comme pouvait faire Mary Shelley, évidemment. Donc là, c'est un espèce de pastiche qui emprunte aussi au mythe de Faust, à l'histoire de Jeannère. Et je vous conseille vraiment de le lire. C'est très, très ludique à lire. Enfin, moi, ça m'a beaucoup amusée, parce que c'est truffé aussi de dessins, de gribouillis, d'écriture, et ça reparaît aux éditions Métellier.
Vincent Almendros.
C'est un premier roman qui est paru aux éditions de Minuit.
Tiens donc.
Oui, mais c'est
votre maison d'édition.
Oui, mais alors j'ai hésité pour cette raison-là, pour tout vous dire.
Non, bah,
en vérité, comme j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je tenais à en parler. Il s'intitule « Ceux qui appartiennent toujours » de Emma Daut von Trotzfeck. Alors je vous conseille de chercher peut-être par le titre « Ceux qui appartiennent toujours ». C'est un premier roman qui est très délicat, c'est une histoire de famille également, d'une narratrice qui revient dans sa famille, une famille de pasteurs. Et c'est un livre sur l'oubli, la transmission, avec un travail, un jeu sur la langue, notamment la langue néerlandaise, qui est vraiment très très beau. Des tableaux, enfin vraiment d'une sincérité, moi qui m'a, et à la fois lumineux, qui m'a beaucoup beaucoup plu.
Yannick Enel.
Oui, il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle La Chimère, d'Alice Rohrwacher, on dit comme ça. C'est une Italienne, mais du nord de l'Italie. La Chimère, ça parle des Étrusques. C'est une bande de joyeux drilles qui pillent les tombes étrusques. Et l'un de ces types est complètement amoureux d'une femme dont on comprend peu à peu que peut-être elle est disparue depuis longtemps, comme les Étrusques eux-mêmes. Et on voit l'Italie effondrée, mais aussi toujours travaillée par la magie de ce qu'il y a sous terre, de l'archéologie. Et à un moment, il y a une actrice, je crois qu'elle a joué dans Des Pléchins, et elle regarde, elle parle en français à ce moment-là, elle regarde la caméra et elle dit, mais c'est plus beau dans le film, elle dit, si les Étrusques n'avaient pas été vaincus par les Romains, les hommes seraient moins machos et peut-être les femmes auraient le pouvoir.
Film qui nous avait été recommandé il y a quelques semaines également par Hélène Frappa.
Oui, le film sort en Belgique au printemps. On l'attend de pied ferme.
Et de mon côté, je ne peux que vous recommander le nouveau film du cinéaste japonais Hirokazu Koreeda. C'est un grand film sur la différence qui nous entraîne sur de fausses pistes, qui au fil du récit nous offre des éclairages différents qui font voler en éclats nos présupposés. Ça s'appelle Monster en anglais et L'innocence en français. Et ça n'est pas sans lien avec votre livre d'ailleurs, Vincent Almendros. Et puis je vous rappelle que je vous attends samedi prochain en direct au Botanique à Bruxelles pour une spéciale de Dans quel monde on vit, réalisée en direct et en public dans le cadre de la Semaine de la musique belge. On vous sert le petit-déj et on vous offre des performances en live, détails et inscriptions via le site lapremière.be. Et à lire bien sûr les livres de nos invités, je les ai adorés, Bleu Bacon de Yannick Enel, c'est dans la collection Ma nuit au musée chez Stock, et Sous la menace de Vincent Almendros, c'est donc aux éditions de Minuit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci.